Merci de cette belle histoire lyonnaise. Vous avez dit au début de votre propos que les historiens n'ont pas de leçons à donner, mais cela n'empêche pas les décideurs, les gouvernants, les régulateurs, peut-être de prendre des leçons. Je donne maintenant la parole à Pierre Cyril.
Merci. Donc effectivement, vous avez constaté qu'on est pris entre deux tendances. Une tendance à essayer de tirer des leçons générales et une tendance à dire que finalement c'est quand même chaque fois différent, comme dit le titre de cet ouvrage de Reinhard Herrhoff. Et effectivement, l'interprétation très séduisante que donne Henri Orléans est convaincante, avec une difficulté, c'est pourquoi est-ce que ça se répète si finalement on le sait ? Alors peut-être que l'interprétation c'est que jusqu'à présent on ne le savait pas, mais malgré tout, comme il disait lui-même, Kindelberger et d'autres gens déjà auparavant avaient un peu cette intuition que ça se répétait. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de traiter ces répétitions ? Et évidemment ce que disent les historiens c'est que c'est à la fois une répétition et en même temps chaque fois différent, et effectivement chaque fois différent. Et donc la difficulté, c'est peut-être, j'ai essayé de me concentrer sur l'idée selon laquelle les grandes crises financières, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, entraînent des transformations de la manière dont fonctionne le capitalisme qui font que c'est effectivement différent, même si au bout d'un moment, on peut voire réapparaître le même genre de dérive. Mais le fait que ça ne réapparaisse pas tout de suite suggère qu'il y a effectivement un changement et que pendant longtemps, on est éventuellement immunisé contre certaines formes de crise. Et ça n'est pas rien, parce qu'après tout, on pourrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le temps des crises financières. Et il y en a souvent, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très graves. On a cité la crise de 87, qui a été une crise extrêmement forte en termes de variation des cours sur les marchés boursiers, qui a eu extrêmement peu d'impact économique. Pourquoi est-ce que, finalement, il n'y a pas tant que ça de crise financière ayant des conséquences économiques graves, avec des millions de chômeurs, avec toutes les choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vues dans les années 30. Donc ces crises très particulières, je pense qu'elles résultent, comme l'a montré André Strauss dans le cas du 19e siècle, de la mise en place longue d'un ensemble d'innovations et d'institutions qui vont avec, qui les permettent de les développer. Et chaque crise est précédée par une période plus ou moins longue de développement de ce type, de nouveaux produits financiers, de nouvelles institutions financières qui permettent, pendant une durée quelquefois assez longue, de s'équilibrer mutuellement et d'éviter que cela débouche sur une crise. Si on prend quelques exemples sur très longue période, en France, simplement en France, on peut citer la crise qui a lieu en 1720 au moment où John Law est à la tête des finances royales et où il met en place en quelques années une réforme absolument radicale des finances publiques. Il crée un type de produit financier qu'on n'a même pas osé recréer depuis, tellement il est innovant. Ce sont des titres de dette publique qui ont une dimension contingente, c'est-à-dire dont les intérêts sont payés en fonction de la situation des finances publiques. Il y a quelques personnes qui ont reparlé de créer ce genre de choses récemment pour des pays comme la Grèce en disant voilà, on pourrait indexer les intérêts sur la dette grecque sur les performances de l'économie grecque. Bon, c'est une idée qui était déjà présente en 1720. Elle était tellement originale et tellement difficile à institutionnaliser parce que par exemple on ne savait pas mesurer le PNB, on n'avait pas de forme structurée d'observation des finances publiques, que ça a fait une bulle extrêmement rapide qui s'est écroulée. L'impact sur l'économie générale n'a probablement pas été très élevé, et pourtant, ça a semé des idées sur ce que c'était que le développement des finances publiques. Au même moment, il y a eu quelque chose de similaire en Angleterre, qui a été relativement moins radical, qui a aussi débouché sur une crise, mais en France et en Angleterre, on a par la suite gérer les finances de manière extrêmement différente pendant le XVIIIe siècle, avec des formes de crises qui étaient extrêmement différentes, mais qui étaient finalement des crises moins graves en termes d'impact économique. Le deuxième exemple, c'est de type d'innovation radicale qui débouche sur une crise. Et là, dans ce cas-là, avec une crise qui a eu des conséquences économiques très graves, c'est la Révolution française, c'est la crise des assignats. Bon, les assignats, c'est aussi une innovation financière extraordinaire, puisque c'est la première fois qu'on essaye d'avoir une monnaie purement fiduciaire. Et là encore, on voit, ça se passe au départ extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on réussit quand même à remplacer l'usage de la monnaie métallique par un usage général et sans inflation pendant les deux premières années de cette opération, ou une inflation extrêmement limitée, par un usage d'une monnaie complètement fiduciaire qui repose uniquement sur la confiance que les gens font au gouvernement. C'est à l'époque une véritable révolution, dans la révolution. Et ça finit mal, mais certains auteurs prétendent que c'est parce que la guerre a recommencé, qu'on s'est mis à imprimer des billets de manière massive, etc., que ça a mal fini, mais que ce n'était pas une nécessité. Il se trouve que l'effondrement par hyperinflation dans les années 1793-94 de cette opération conduit à la mise en place d'un système de financement et de crédit beaucoup plus conservateur, celui que vous a décrit André Strauss, parce qu'au départ, faire de l'escompte à partir d'effets de commerce, c'est une solution considérée comme prudente et considérée comme, justement, comment éviter les dérives de la Révolution. Mais en même temps, il faut bien se souvenir que ce qui a été lancé pendant la Révolution, c'était quelque chose d'extrêmement innovant, qui avait potentiellement, qui permettait de s'affranchir des contraintes extrêmement lourdes que faisait peser la monnaie métallique sur l'économie, mais c'est une innovation, à nouveau, qui n'a pas été, qui ne pouvait probablement pas réussir parce qu'elle manquait de l'environnement de l'ensemble des institutions qui permettaient sa survie. Par exemple, très simplement, les billets étaient imprimés, le montant des billets en circulation, les billets imprimés, étaient décidés directement par l'Assemblée. Et on voit bien que le fait qu'il n'y ait aucune institution capable de dire « oui, mais attention, peut-être que pas maintenant, ou peut-être un peu plus tard, ou il faut faire de manière plus subtile, etc. Hein, » aucun intermédiaire, vous savez que c'était le rêve de la Révolution, d'avoir aucun intermédiaire entre le peuple et le gouvernement, mais dans ce cas-là, manifestement, ça a certainement joué un rôle dans la dérive du système, même s'il n'a pas duré assez longtemps pour qu'on puisse véritablement le vérifier. Donc, innovation joue un rôle très important dans le déclenchement de crise, mais surtout innovation insuffisamment institutionnalisée, contrôlée. Et le 19e siècle, tel que le décrivait André Strauss, montre l'exemple d'un développement d'innovation financière avec toute une série d'institutions qui se mettent en place et qui, à la fois, qui vont protéger contre la survenue de crises importantes pendant assez longtemps. Il y a des crises, hein, il y a des crises pratiquement tous les 10 ans pendant le 19e siècle, certaines sont relativement graves, mais on n'a pas de crise qui amène à un changement très profond de l'ensemble du système financier. La crise qui va amener ça, elle a lieu en 1929, et c'est ce dont je voudrais vous parler quelques minutes, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai plus précisément travaillé. La crise de 1929 survient à un moment qui est marqué à la fois par le développement d'innovations financières importantes, mais surtout par des transformations profondes du contexte économique et financier international. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les innovations financières qui ont joué un rôle? C'est en premier lieu quelque chose qui est une forme de titrisation. On a transformé un grand nombre de dettes qui étaient des dettes d'État en titres, mais dont les caractéristiques par rapport aux titres privés étaient ambiguës, ce qui a été créateur d'incertitudes. Si on veut être précis, on peut s'apercevoir que L'idée de titriser les dettes politiques issues de la Première Guerre mondiale apparaissait à l'époque comme une évidence. D'abord, les dettes publiques étaient titrisées depuis plus d'un siècle dans tous les pays, avec des effets d'assez forte stabilité sur leurs cours. Hein, à la fin du XIXe siècle, les cours des dettes publiques sont extrêmement stables dans la plupart des pays riches. Et donc, on se dit que c'est vraiment une manière stable de faire. Après la guerre de 1870, la France avait émis pour à peu près 20% du PNB en très peu de temps de dettes publiques pour financer les réparations qu'il fallait payer à l'Allemagne. Donc, on se dit, on va faire la même chose pour les dettes de l'Allemagne envers les alliés, les réparations après la guerre de 14, et on va faire la même chose avec les dettes que les gouvernements européens ont envers les États-Unis au titre des dettes interalliées. On veut faire ça, et en même temps, on a le plus grand mal à le faire. En 1924, on arrive à un accord, mais cet accord, les Français se trouvent pénalisés parce qu'ils stipulent qu'en quelque sorte, les dettes politiques sont payées après les dettes privées. De sorte qu'évidemment, si l'Allemagne n'a plus assez d'argent pour payer les réparations, par exemple, parce qu'elle a déjà épuisé toutes ses réserves de change, tous ses excédents commerciaux à payer les dettes privées, eh bien, elle ne paiera pas les réparations. Évidemment, ce que fait l'Allemagne, c'est immédiatement de s'empresser à s'endetter tellement au titre des dettes privées qu'elle ne pourra pas payer les réparations. C'est assez logique. Donc, en 1929, on inverse la règle. On dit qu'on paye d'abord les dettes politiques et ensuite les dettes privées. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Évidemment, les dettes privées perdent la moitié de leur valeur du jour au lendemain. Et c'est une des choses qui vont précipiter la crise. Ce que je veux dire ici, c'est simplement qu'on n'a pas réussi à institutionnaliser correctement cette pratique financière qui était la titrisation des dettes publiques. De la même manière, dans les années 20, on voit apparaître et se développer très rapidement le crédit interbancaire. Alors que la plus grande partie des titres, des crédits avant la guerre de 14, était sous forme de titres et que les banques essentiellement faisaient de l'intermédiation directe entre les déposants ou les prêteurs et les emprunteurs, dans les années 20, on voit se multiplier les crédits entre banques, à la fois au niveau national et surtout au niveau international. À la fin des années 20, on va voir cet ensemble de crédits interbancaires remis en cause par les tensions sur le système monétaire international qui ont lieu autour de 1929-1930, et le fait qu'on ait un ensemble de créances qui repose uniquement sur des actifs qui sont eux-mêmes des actifs sur d'autres banques, c'est-à-dire que cet ensemble d'interdépendance entre les bilans des banques va être une des causes majeures de l'effondrement du crédit dans les années 30. Donc on a à nouveau ici un ensemble d'innovations qui ont permis de faire un certain nombre de progrès dans le crédit dans les années 20, mais qui ont débouché, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment bien institutionnalisées, sur une crise. Donc la crise de 29 va déboucher sur la remise en question d'un certain nombre d'institutions majeures du régime antérieur et sur l'émergence d'institutions nouvelles. Alors, le cas le plus évident, c'est l'organisation financière elle-même, où on va remettre en cause le rôle central des marchés, mais on ne va pas toucher en réalité au crédit interbancaire. On va remettre en cause les talons or d'avant-guerre, mais on va remettre en place quelque chose qui est aussi un régime de change fixe. On va remettre en place, on va remettre en cause la manière dont était émise la monnaie gagée sur un étalon or et limitée par un étalon or. Mais on ne va pas remettre en cause les monnaies elles-mêmes. Donc on a systématiquement, hein, vous voyez, un déplacement de celles des institutions qui sont à la fois maintenues, déplacées. On a des modifications, mais pas une remise en cause systématique. Où il y a des institutions qui sont davantage remises en cause que d'autres. Quelle conclusion tirer de cela? L'aide que l'histoire peut apporter pour résoudre les crises actuelles est évidemment très limitée. Ce qu'elle peut apporter, c'est essentiellement des conseils de méthode. Ne pas penser que c'est toujours pareil. Alors, ni au premier ni au deuxième degré, c'est-à-dire que ça n'est pas toujours pareil, mais ça ne change pas non plus de manière constante. Aujourd'hui, on observe que le président de la Banque fédérale de réserve américaine a tendance à penser qu'il est en 1931 et qu'il faut faire la même chose qu'il aurait fallu faire à l'époque et sur quoi il a longuement écrit. Il y a de très grandes différences entre la situation des États-Unis en 1929, qui était créancier à l'échelle mondiale vis-à-vis d'à peu près tout le monde, alors qu'ils sont débiteurs aujourd'hui. L'industrie américaine était toute puissante, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et les tendances d'organisation sur les marchés financiers ou sur également les marchés du travail dont je n'ai pas parlé étaient extrêmement différentes. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes recettes quand le contexte change. Il faut analyser non pas les situations mais les tendances. Il y a un certain nombre d'innovations en cours qui sont effectivement porteuses de fruits et qu'il faut institutionnaliser et prolonger. Il y en a d'autres éventuellement qu'on peut couper. Dans les années 30, on a décidé de sacrifier une partie des innovations financières pour s'assurer de la stabilité financière pendant un certain nombre d'années. On a séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires. On a interdit toute une série d'opérations financières. Ce n'était pas parce qu'on pensait qu'elles étaient nécessairement nuisibles, c'est parce qu'on pensait que c'était la condition pour une stabilisation pendant un certain temps. Et évidemment, elles se sont remises à émerger par la suite. Et puis, le plus difficile, c'est qu'on sort des grandes crises par la redéfinition d'un cadre économique qui soit convaincant pour les acteurs, et que les acteurs qui soient à la fois les intellectuels, les économistes, mais aussi les patrons, les salariés. Et ce cadre, évidemment, il n'est pas donné. C'est un projet, il doit être proposé, il doit susciter l'adhésion. La chose la plus intéressante qu'on peut observer dans les années 30, c'est la capacité qu'a eu le président Roosevelt à définir une ligne d'action qui a suscité l'adhésion, non pas du tout unanime, puisque je crois que jamais les conflits politiques aux États-Unis n'ont été aussi radicaux qu'à cette époque-là. Mais il a suffisamment l'adhésion pour être élu trois fois président de la République. Et même si ce projet comportait des erreurs, et il y a eu des très grandes erreurs, en particulier dans la politique industrielle, des choses comme ça, mais ce projet a permis effectivement de stabiliser les anticipations de tous les agents sur le fait qu'on avait trouvé une solution qui évitait les crises graves, permettait à tout le monde de trouver un emploi et à une certaine forme de croissance, et à une croissance en fait qui s'est avérée forte, de réémerger. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prétendre à vous reprendre le projet de Roosevelt, et je crois que c'est une erreur que certains ont tendance à faire, mais en même temps, il faut aussi s'inspirer de ce modèle qui est d'essayer de définir un projet. C'est peut-être pas un président de la République qui veut le faire, ça doit se faire peut-être à un niveau plus collectif, peut-être plus international, etc. Mais il n'empêche que c'est une chose qui est nécessaire. Merci.
Merci Pierre-Cyril de cette motion de synthèse très subtile. Avant de donner la parole à la salle, est-ce que les deux André veulent réagir aux propos qui ont été tenus rapidement ?
Juste une seconde, sur cette question de fond qui a été posée dans nos interventions, sur la question des leçons de l'histoire, ma position n'est pas de nier qu'il y ait des évolutions et qu'il y ait des nouvelles institutions et que les cadres sont différents, etc., évidemment. Mais ce qui me semble être important quand même, c'est ce caractère qui a été reconnu par beaucoup d'économistes, ce caractère récurrent d'un certain nombre de structures. Et je crois que là, on a affaire à des régularités de type économique, et il me semble que, évidemment, il faut les utiliser avec soin, etc., mais il me semble qu'il y a quand même des régularités assez profondes qui demandent à être comprises en tant que telles. Et ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs, c'est de montrer que le rôle des innovations, le rôle de cette idée que ce serait une nouvelle ère, qu'à chaque fois les acteurs croiraient que ce serait nouveau, est en fait dans le modèle lui-même. Donc d'une certaine manière, je tiens compte de ce qui a été dit sur les innovations parce qu'elles me semblent en effet importantes dans ces processus de légitimation et d'aveuglement au désastre dont on parlait. Le deuxième point qui est effectivement important, c'est que ce que j'ai décrit était rapide et en effet, il faudrait expliquer pourquoi il n'y a pas toujours des crises et en particulier pourquoi l'instabilité financière ne prend pas toujours l'aspect de bulle. Je peux juste y répondre en un mot, c'est qu'en fait la description que j'ai faite de la dynamique des prix était très fruste et que en fait les choses ne sont pas mécaniques et donc on peut montrer que pour aller vite, c'est qu'en fait ce type de structure en fait a plusieurs types d'équilibre. Donc on peut répondre à cette question qui est tout à fait juste de dire que il y a plusieurs types d'équilibre et qu'on n'a pas systématiquement des bulles et donc des périodes de stabilité sans bulles sont aussi compatibles avec le modèle que je propose.
André Strauss.
Oui, juste un mot pour dire mon accord avec ce que je crois être sous-jacent à ce qu'a dit Pierre Cyril, c'est-à-dire que l'économie, c'est pas c'est une organisation, mais c'est pas un organisme et ça ne secrète pas de manière immédiate une dérégulation et qu'il y a tout un effort de construction des régulations qui se font par tâtonnement, par conflit, et que ce soit des conflits sociaux ou des conflits internationaux. Donc je pense qu'il y a d'une part des régularités de comportement économique, que d'autre part les mécanismes de régulation ne sont pas automatiques. Voilà, et je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Merci. Question de la salle. Allez-y.
Bonjour. Je voudrais vous demander, est-ce que les crises actuelles ne peuvent pas aussi s'expliquer par le décrochage qu'a fait le dollar par rapport à l'or il y a une trentaine d'années, où il était à l'époque où l'once d'or était à 32 dollars et aujourd'hui il est à pas loin de 1400 ou 1500 dollars, hein, je ne sais plus exactement.
Un peu au-dessus de 1400, oui.
Et l'autre question qui est raccrochée, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de financer des efforts liés à des conflits, à l'époque c'était le Vietnam et aujourd'hui c'est peut-être d'autres conflits au Moyen-Orient.
Autre question ?
Merci. Je voudrais surtout m'adresser à M. Hautecoeur. Il a beaucoup parlé que les innovations avaient provoqué des crises. Mais on ne s'est pas du tout étendu sur la crise actuelle. Et on a beaucoup entendu parler en 2008-2009 des innovations financières, les titrisations, etc., etc. Est-ce qu'effectivement, notre crise actuelle a les mêmes motifs que les crises évoquées par M. Hautecoeur ?
Une autre question.
Oui, je voudrais interroger un peu plus précisément sur les leçons de l'histoire ou l'absence de leçons de l'histoire, pas simplement sur ce qui provoque les crises ou sur leur portée et leur profondeur, mais sur les sorties de crise, qui me paraît maintenant la question la plus compliquée et celle auquel on est confronté, y compris comme citoyen. Et j'entends bien ce que paraît dire Pierre-Cyril Hautecoeur, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de transformation institutionnelle d'ensemble, et dit-il, de projet politique. Mais là-dessus, je n'ai pas entendu André Orléans. Et donc ma question s'adresse directement à lui, c'est-à-dire quel est son point de vue sur la question de leçon de l'histoire vis-à-vis ou d'absence de leçons de l'histoire vis-à-vis des sorties de crise. Et appliquées à celle-ci, bien sûr.
On va prendre une quatrième question et dernière pour ce premier tour, là-bas.
Bonjour. Je m'excuse peut-être pour la naïveté de ma question, mais je ne suis pas économiste. Comme ça, les autres pourront poser des questions bêtes, il n'y aura pas de problème. Ma question, c'est la suivante. Vous avez l'air tous les trois d'accord sur le fait de dire qu'à un moment, les phénomènes spéculatifs jouent un rôle très important dans les crises financières. Alors, puisqu'on est dans les leçons de l'histoire, ma question c'est, est-ce qu'il y a des moyens politiques, par exemple en agissant sur les structures, de limiter cette spéculation ? Est-ce que les hommes politiques ont déjà vraiment essayé et quel a été le résultat ?
Merci de cette question faussement naïve. Donc on va commencer peut-être par la crise actuelle. Ce qui s'est passé le 15 septembre 2008 est-il la conséquence directe de ce qui s'est passé le 15 août 1971 qui veut peut-être André
Je crois pas. Évidemment, la question de la gestion des monnaies, je dirais évidemment, est un élément structurel pour penser le système financier. Évidemment, c'est des éléments importants. On le sait aujourd'hui, après toutes les difficultés qu'on a de cette guerre des monnaies dans laquelle on semble être entré. Mais je crois pas que. Je veux dire, tout est interdépendant dans les économies. Donc la manière de gérer la monnaie est interdépendante avec la crise, puisque ça détermine aussi les conditions de l'endettement, les conditions, la manière dont les banques se refinancent. Donc on est dans des systèmes extrêmement interdépendants. Donc on ne peut pas dire que la gestion monétaire n'aurait pas d'effet sur la gestion financière. Évidemment, oui, et beaucoup de gens ont mis en évidence le fait que la politique monétaire qui avait été suivie antérieurement à la crise a eu son rôle dans la bulle du crédit à travers des phénomènes de taux d'intérêt. Néanmoins, il me semble que dans cette chaîne et dans mon jugement, mon diagnostic par rapport à ces interdépendances, c'est que ça ne me semble pas être un point clé. Donc, d'ailleurs, on a connu des crises dans un système d'étalon or. Donc, les mécanismes, évidemment, ça joue, tout joue dans ces systèmes interdépendants, mais ce n'est pas une cause directe, à mon sens, de la crise.
Pierre Cyril, sur cette question et aussi sur le lien innovation-crise, en sachant qu'il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation financière elle-même et puis il y a les innovations qui se font ailleurs et sur lesquelles il y a évidemment des jeux financiers extrêmement importants.
Oui, alors, bon, il y a un paradoxe sur cette question, c'est que il y a une grande littérature produite par les économistes depuis 30 ans au moins, expliquant que le développement financier, c'est-à-dire le développement de l'activité financière, est une bonne chose pour le développement économique. Et il y a des tas de mesures qui essayent de montrer. Et l'intuition derrière est simple, c'est en gros, voilà, il y a plein de gens qui pourraient développer leur activité, créer des entreprises, embaucher, etc., s'ils avaient accès au crédit. Et donc le développement financier, qui est principalement le développement de la quantité de crédit développée, est une chose qui est utile au développement économique. Et en même temps, évidemment, on voit que quand le développement financier s'emballe, il y a des moments où on a des écroulements qui ont des conséquences économiques catastrophiques. Et donc toute la difficulté, c'est de gérer suffisamment bien ce développement économique, ce développement financier, pour avoir les bons côtés et pas les mauvais. Alors la tentation conservatrice, c'est de dire, on empêche tout ça, on n'aura pas de problème. Oui, mais si on empêche tout ça, on n'aura pas non plus les bonnes conséquences du développement financier. Donc les innovations financières qui ont lieu depuis 20 ans, de même qu'il y en a eu, j'ai essayé de le dire, avant toutes les grandes crises financières, ce sont des innovations dont une large proportion est utile, permet à des opérations réelles de se faire. Donc on ne peut pas simplement se dire, voilà, on va les supprimer. Le problème, c'est de les contrôler. Or, ces innovations financières, quasiment par définition, elles se développent pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Parce qu'une innovation, c'est quelque chose qui permet de résoudre de créer des solutions à quelque chose qui ne se faisait pas auparavant. Une innovation technique, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose d'une manière qu'on ne le faisait pas auparavant, ou même quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant. Donc on a la même chose ici, et dès lors que ça déborde les cadres pensés auparavant, eh bien, la difficulté, c'est de réussir à recréer un cadre qui évite les dérives. Et une des grosses difficultés, à la fois dans les années 20 et aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des innovations financières se font dans un cadre international qui, comme tel, n'est pas sous contrôle des États-nations, qui sont la seule structure politique qui s'est réellement établie dans les deux derniers siècles et qui a encore une légitimité, ce qui fait que, par exemple, les banques centrales, qui sont la quintessence de l'intervention possible du pouvoir politique national, ont joué un rôle très important et n'ont pas été réellement remises en cause dans toutes les crises depuis un siècle et demi, mais en même temps, ce ne sont que des banques centrales nationales, et quand elles veulent résoudre des problèmes qui sont liés à des innovations transnationales, eh bien, elles ont beaucoup de difficultés, ce qu'on a vu en 1929 et ce qu'on voit à nouveau aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ceci... Alors, vis-à-vis de l'étalon or, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la sortie de l'étalon or, en un sens, est une forme d'innovation, c'est-à-dire qu'il va permettre de résoudre certaines des difficultés qu'il y avait avec l'échange fixe, qu'on avait essayé de résoudre avec des ajustements locaux. On s'est dit, ben, enfin, finalement, on va laisser le marché faire l'ajustement. Aujourd'hui, on s'est aperçu que le marché tout seul, ça ne marchait pas. Donc, on cherche des solutions intermédiaires qui permettent de réguler tout en ayant à la fois un rôle du marché et un contrôle politique coordonné là-dessus. Et c'est assez difficile.
Et donc, sur la question, est-ce qu'on a trouvé dans l'histoire des moyens de séparer la bonne spéculation, puisque ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a des formes de spéculation qui peuvent être utiles aussi. Est-ce qu'on a trouvé des moyens de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie de la spéculation ?
Ça, c'est une question que je refilerai volontiers à André Orléans, mais il vous l'a. Je pense que ça dépend comment on définit la spéculation. Mais je ne crois pas qu'on ait la capacité à réellement observer à quel moment se met en place une mauvaise spéculation. Donc il y a une espèce de course-poursuite entre les innovateurs qui créent des nouveaux produits, sur lesquels il y a toujours beaucoup plus de spéculation que sur les produits établis, et les régulateurs qui essayent de reprendre le contrôle sur ces produits, avec la difficulté particulière qu'il y a dans la régulation internationale.
André Strauss, oui. Sur cette question de la spéculation.
Je vais juste un mot pour aussi. Ne pas être aussi complètement affirmatif que André Orléans sur la rupture du système monétaire international. C'est, disons que de manière indirecte, je dirais que les périodes dans lesquelles l'économie internationale a été la plus stable, ce sont les périodes dans lesquelles il y avait une nation prédominante, qui était le cas de l'Angleterre au XIXe siècle, le cas des États-Unis de 1945 jusque dans les années 70. L'entre-deux-guerres est une période un peu compliquée parce que c'est une période multipolaire. Donc je pense que ce n'est pas complètement aussi éloigné que ça des problèmes de désajustement qu'on a pu connaître depuis les années 70. Deuxième chose, c'est à propos de la spéculation, il y a deux exemples de spéculation, dont l'une qui me paraît complètement avoir été justifiée, c'est celle sur les produits Internet. Enfin, il y a eu évidemment des excès, mais incontestablement, les produits ont été un véritable succès, ont entraîné une révolution. Je vais prendre un autre exemple de spéculation, ou disons de boom, qui me paraît avoir moins... eu d'intérêt, d'ailleurs moins de conséquences directes en tout cas, c'est le boom qu'il y a eu sur les modèles de couverture des risques sur les marchés. Je pense que ça nourrit toute une industrie. Je ne pense pas que l'efficacité ait été complètement trouvée. Alors maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un bon niveau. Le bon niveau est celui des gens qui s'arrêtent à temps. Et puis voilà, il y a donc des perdants forcément. Maintenant, alors pour la question sur les sorties de crise, moi je suis strictement incompétent. Je crains qu'on soit entré dans une période d'une dizaine d'années où les réajustements de l'économie internationale sont, pour des raisons structurelles, en train de se faire et que ça ne va pas se faire rapidement.
Sur la question de la spéculation, je voudrais juste rappeler qu'au plus fort de la crise, en octobre 2008, je crois, il y a eu une décision d'interdire les ventes, les opérations à terme sur les marchés d'actions parce que ça créait trop de volatilité. Et on s'est aperçu que dans les jours qui avaient suivi, la volatilité a bondi parce qu'il n'y avait plus les instruments ces instruments-là. Donc l'interprétation de la bonne et la mauvaise spéculation est toujours un exercice très compliqué. André, sur ces différentes questions et notamment la sortie de crise.
Oui, alors c'est évidemment un sujet vraiment compliqué. Je crois que mon point de vue, pour le dire simplement, c'est que il y a tellement de paramètres en cause ici. Je dirais, on peut prendre deux choses qui me paraissent importantes pour rejoindre ce qu'il disait d'ailleurs Pierre Cyril, mais peut-être ne pas être d'accord avec lui. C'est sûr, il me semble qu'on peut dire que la sphère financière a eu une croissance exagérée. Donc il me semble qu'il y a un premier problème de sortie de crise qui est la place de la finance aujourd'hui dans l'économie. Alors c'est pas facile à mesurer, etc. Ça peut demander des débats, mais il me semble là qu'il y a une déformation pathologique et que la partie de la finance qui était au service de l'économie est devenue bien moindre par rapport à une partie qui est endogène en quelque sorte à la propre finance, et donc il y a là un problème. Donc je serais pour des mesures qui iraient dans le sens de réduire cette part du système financier. Et il me semble, alors le deuxième point qui est vraiment beaucoup plus peut-être crucial et immédiat, c'est cette situation qui est effectivement intenable, et là où c'est peut-être un des rares points où il y a vraiment un consensus, il me semble, chez les économistes, c'est qu'on ne peut pas garder une structure dans laquelle les profits soient privatisés et les pertes soient socialisées. Donc tout le monde est d'accord pour penser qu'il y a là un système d'incitation qui est totalement pervers et qui conduit les banques, évidemment, ou beaucoup d'acteurs qui savent qu'ils n'ont aucun risque de perdre, de jouer, puisqu'ils ne risquent rien. Donc, plus quand ils gagnent, c'est bon pour eux, et quand ils perdent, c'est mauvais pour nous. Donc, il y a là quelque chose qui est vraiment central, comme on dit, le « too big to fail » est tout à fait central. Et quand on y réfléchit un peu, il semble que, je dirais pour aller vite, qu'il y a un aspect bien public, au fond, dans le système de crédit et dans le système de monétaire, hein, bien public, parce que ça, on en a tous besoin pour vivre et pour faire qu'il y ait des échanges. Et donc, cette idée classique, discutée de séparer la partie spéculative de la partie, je dirais, monétaire et crédit, me paraît être une bonne voie, c'est-à-dire une espèce de retour au Glass-Steagall-Act, qui justement essayait de séparer dans l'activité bancaire l'activité, disons, spéculative qui avait trait aux gestions financières et l'activité qui avait trait à la régulation des dépôts, de l'épargne, etc. Donc ça me semble être un point important, parce que sinon, pour réguler la spéculation, je pense que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, on peut pas. Il est très difficile de dire a priori ce qui est une bonne et une mauvaise spéculation. Il semble, à un moment donné, moi, je pense que le jugement doit être plus général et se demander si on a de la finance de marché, on a forcément de la spéculation, semble-t-il. Donc la question, c'est la place qu'on doit donner à la finance de marché, à un certain nombre d'instruments et d'en limiter la taille. Après c'est difficile, une fois qu'on a établi la règle du jeu, de savoir si c'est bon et mauvais. C'est pas possible, même s'il me semble qu'on n'en sait pas suffisamment en matière d'instruments dérivés. On aurait besoin de beaucoup plus d'informations. Donc voilà, mais ce seraient mes deux points avec Stoglass-Steagall-Light. Et pour finir, l'idée, je crois qu'il y a une idée qui est importante, conceptuelle, c'est cette idée qui est que les marchés financiers ne cotent pas forcément bien. Cette idée qu'il faut cesser de penser que c'est la forme optimale de l'allocation, que ça nous donne toujours des prix justes et que les marchés ont raison. L'exemple le plus récent, c'est celui de la dette publique et de la valorisation de la dette publique. Il semble qu'il y a là quelque chose à faire pour prendre conscience que les évaluations de marché qui dominent incroyablement la planète ne sont pas forcément bonnes. Et il y a toute une révolution intellectuelle à mener autour de ce problème, d'essayer de trouver d'autres manières d'évaluation, etc. Mais de ne pas s'en remettre dans les marchés, parce que précisément, pour les raisons que j'indiquais, à mon sens, il y a des conditions d'inefficience structurelle à ces marchés dans les niveaux de prix, et qu'on ne peut pas s'en remettre uniquement à eux. C'est trop problématique.
On va prendre une dernière question. Monsieur, Juste hein, sur l'histoire du poids de la finance, il y a un économiste français qui vit aux États-Unis qui s'appelle Thomas Philippon, qui a fait un travail de très long terme. Donnez le micro à monsieur. Qui a montré que donc la finance faisait 6% de l'emploi en moyenne à long terme aux États-Unis et qu'en 2007, on était à 9%. Donc moitié plus que la tendance de long terme. Donc il y a une vraie question qui est posée là. Monsieur ?
Aussi, vous pouvez le mesurer au nombre d'actifs par valeur ajoutée produite, dont on sait que ça s'est passé à peu près de 100% à 300-350%. Donc il y a là une excroissance qui pose problème.
Oui, j'aimerais rebondir autour de la notion d'aveuglement au désastre sur les bulles spéculatives. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement qu'il y a une certaine rationalité dans ces bulles, puisque comme vous le disiez, ces bulles sont liées à des anticipations de profit, et donc prévoir une crise, c'est prévoir soi-même que ces anticipations de profit seront plus faibles. Et donc, pour revenir au titre du débat, est-ce que justement ça n'irait pas dans un sens plus pessimiste, qu'il ne puisse pas y avoir de leçon de l'histoire, puisque justement il y a une certaine rationalité dans la répétition de ces bulles?
André Orléans.
Oui, ce serait tout à fait mon point de vue, c'est-à-dire de penser que les bulles spéculatives ne sont absolument pas contradictoires avec la rationalité, et c'est même pour cette raison qu'on en a si fréquemment. Si c'était vraiment irrationnel, j'ai suffisamment confiance dans l'humanité pour penser qu'elle serait finie par s'habituer et par trouver des remèdes. Mais je crois que c'est dans le mécanisme, tout à fait, le mécanisme de bulle est parfaitement rationnel. C'est-à-dire que pour une raison très simple, on en voit des tas d'exemples. J'en prends juste un qui me vient à l'esprit, c'est que pendant la bulle des subprimes, autour des subprimes, on a commencé à développer, vous savez, des hypothèques très étrange et tout à fait instable, en particulier une d'entre elles qui conduisait à ce que le remboursement se fasse en une fois à la fin, qui est un système qui pose évidemment beaucoup de problèmes quant aux possibilités de faillite, etc. Et il y a un grand acteur, c'est American Invest, qui est un grand acteur du secteur hypothécaire, qui se refusait à rentrer dans ce marché-là, justement parce qu'il était sensible, lui, au fait que c'était tout à fait délicat et qu'il y avait des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'il voit tous ses concurrents gagner des parts de marché et faire énormément d'argent sur ce type d'hypothèque, il a été amené lui-même à rentrer dans la compétition. Donc ça, c'est tout à fait typique. C'est si ça monte et que vous pensez que ça monte, même si par ailleurs vous croyez vous-même, vous savez que c'est parfaitement surapprécié, tant que vous pensez que ça va monter et qu'il va y avoir du rendement, vous avez intérêt de le faire. Et comme par ailleurs, lorsque tout le monde fait ça, ça réalise la croissance qui est anticipée, vous avez là un très très beau mécanisme de coordination, d'anticipation qui est parfaitement rationnel et qui peut fonctionner pas mal de temps. Donc en effet, je crois que l'aveuglement au désastre, c'est pas un phénomène, c'est tout à fait rationnel. Du point de vue de la rationalité individuelle, mais évidemment du point de vue de la rationalité collective, c'est autre chose, évidemment.
Merci. Ce que je retiendrai de ce débat, la leçon que je tirerai de ce débat sur les crises financières dans l'histoire, c'est que quand on a les grandes crises, les très grandes crises systémiques, celles qui nous occupent actuellement, on a bien sûr des innovations qui viennent de l'intérieur de la finance et qui jouent un rôle tout à fait fondamental, ça a été rappelé par chacun des intervenants, mais il y a aussi des innovations et des changements techniques, des nouveaux territoires qui s'ouvrent, hein, et Pierre Cyril parlait de John Law en 1720. On pariait à l'époque sur l'Amérique, hein, donc on pariait sur un nouveau territoire. La bulle internet, on pariait sur un nouveau territoire qui était l'univers virtuel, et dans les années 20 on pariait aussi sur le développement de la production industrielle de masse, et donc on a l'innovation technique joue un rôle fondamental, et un troisième point joue aussi un rôle fondamental, c'est des changements géopolitiques. Ça n'est pas un hasard si la crise a éclaté à la fin des années 20, quand le pouvoir basculait de l'Europe et de Londres en particulier, vers l'Amérique et New York en particulier. Ça n'est pas un hasard si la crise que nous vivons aujourd'hui se traduit au moment où on bascule vers les technologies de l'information, mais aussi au moment où le pouvoir bascule à nouveau, cette fois-ci de l'Amérique vers l'Asie. Merci à vous trois et bonne continuation. Merci.